Monsieur, je vous remercie pour votre accueil si chaleureux. J'avoue que c'était depuis longtemps un rêve pour moi de pouvoir vous rendre visite en votre tour.
Alors, vous aimez ma petite demeure?
Beaucoup. Et voilà, il y a aussi le poutre où vous avez noté des phrases importantes.
Ah oui, il est vrai. Ce sont des phrases qui me plaisent beaucoup. Parfois, elles m'aident à donner une structure à mes idées. Mais vous venez de m'interroger sur les essais, je suppose.
Ah oui, bien sûr. Vous avez commencé à écrire les essais il y a 5 ans.
Ah non, cela fait déjà 7 ans, 9 ans. 9 ans, c'est en 1571 que j'ai conçu l'idée de rédiger les essais.
En 1554, vous devenez conseiller à la cour des aides Périgueux. En 1559, vous êtes allé à Paris, vous êtes revenu en 1561, vous êtes marié et en 1570, vous abandonnez votre poste au Parlement de Bordeaux.
Je suis un esprit libre, vous savez.
Mais vous étiez encore gentilhomme de la chambre d'Henri de Navarre, le futur Henri IV.
Il est vrai.
La politique ne vous a pas lâché.
Et je pensais être utile pendant nos guerres de religion. Parlementer, vous savez, parlementer.
Et peu après, vous êtes devenu écrivain. La première édition des essais vient de paraître. Quelle est l'idée principale de ce livre?
Vous savez, c'est d'abord un livre de bonne foi. Il vous avertit dès l'entrée que je m'y suis proposé aucune fin, ni domestique, ni privée. Il ne s'agit point de ma gloire personnelle. Je vous assure que mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je l'ai voué tout simplement à la commodité particulière de mes parents et amis. À ce que, m'ayant perdu, ce qu'ils ont à faire bientôt, ils y puissent retrouver quelques traits de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen, ils nourrissent plus entière et plus vive la connaissance qu'ils ont eue de moi.
Ah, donc vous parlez de vous dans ce livre.
Oui et non, ce n'est pas si simple. Si c'eût été pour rechercher la faveur du monde, je me fusse paré de beautés empruntées. Mais j'ai décidé que je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans étude, c'est-à-dire sans effet recherché et artifice, vous voyez, car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront au vif, mes imperfections et ma forme naïve, autant que la révérence publique me l'a permis. Que si j'eusse été parmi ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de nature, je vous assure que je m'y fusse très volontiers peint tout entier et même tout nu. Ainsi, cher ami et cher lecteur, je suis moi-même la matière de votre livre, et dans la préface que je viens d'écrire, il y a quelques jours, j'ai ajouté: Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain.
Mais quand on lit les premiers essais, on voit bien que ce n'est pas du tout vrai. Vous parlez de vous, oui, mais vous parlez aussi de tout ce qui vous intéresse. C'est votre manière de vous montrer, tout nu, comme vous avez dit.
Oui, très bien, on dirait que vous avez déjà compris l'essentiel. Il n'est pas très intéressant de parler toujours de soi-même. Mais notez bien, je parle des hommes. Ah, ce n'est pas un sujet facile. Certes, c'est un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant que l'homme. Il est malaisé d'y fonder jugement constant et uniforme. Regardez, comment voulez-vous faire mieux? Il y a ceux qui accusent les hommes d'aller toujours après les choses futures, et ils veulent nous apprendre à nous saisir des biens présents et nous satisfaire de ceux-là. Ils font comme si on n'a aucune prise sur ce qui est à venir, voire encore moins sur ce qui s'est passé. De cette manière, ils touchent la plus commune des humaines erreurs. De cette manière, ils touchent la plus commune des humaines erreurs, s'ils osent appeler erreur. Mais réfléchissez bien, il est vrai, nous ne sommes jamais chez nous. Nous sommes toujours au-delà. La crainte, le désir, l'espérance nous élancent vers l'avenir et nous dérobent le sentiment et la considération de ce qui est pour nous amuser à ce qui sera, voire quand nous ne serons plus. C'est-à-dire, les hommes ne savent jamais estimer ce qu'ils ont actuellement. En d'autres mots, si on cherche les hommes, ils ne sont jamais chez eux. Par tout cela, je veux tout simplement dire que les hommes pensent toujours à l'avenir. Il n'y a point de constance chez eux. Et c'est pourquoi il est si difficile de bien saisir l'homme.
Vous pensez qu'on n'y arrive jamais ?
Oh, si, non, pas vraiment. Mais on peut l'essayer, vous voyez.
Vous le faites par des textes ?
Oui, par des textes. Ces essais tournent autour d'un sujet, essaient de le saisir, vous voyez.
Et vous parlez beaucoup de l'histoire ?
Ah oui, l'histoire, c'est mon gibier en matière de livres. Quant aux facultés naturelles qui sont en moi, de quoi c'est ici l'essai, je les sens fléchir sous la charge. Mes conceptions et mon jugement ne marchent qu'à tâtons, chancelant. Je ne me satisfais pas de ce qu'on écrit dans les livres. Quand je suis allé le plus avant que je puis, s'il ne me suis aucunement satisfait, car je vois encore du pays au-delà, mais il est vrai, d'une vue trouble et en nuage que je ne puis démêler, il faut avoir les reins bien fermes pour entreprendre de marcher front à front avec ces gens-là. Les écrivains indiscrets de notre siècle, qui parmi leurs ouvrages de néant vont semant des lieux entiers des anciens auteurs pour se faire honneur, font le contraire. Qu'ils y perdent beaucoup plus qu'ils n'y gagnent.
Ah, je comprends pas. Vous méprisez les auteurs de votre temps ?
Ah non, vous ne comprenez pas bien. Je voudrais seulement dire que les auteurs d'aujourd'hui lisent vite et ils ne comprennent pas tout. Ils sont toujours en avance de leur lecture.
Dans votre livre, vous parlez aussi de la pédagogie.
Ah, vous parlez encore du chapitre 25. Je l'ai appelé de l'institution des enfants.
Mais en fait, vous y parlez aussi d'autre chose.
Vous avez déjà saisi un caractère essentiel de mes essais. Leur contenu ne correspond pas souvent à leur titre. Car à force de tourner autour d'un sujet, je m'en éloigne et je m'y rapproche.
Alors, les enfants ?
Revenons, oui, à nos enfants. Quelqu'un me disait chez moi l'autre jour que je devrais parler de l'institution. On dit aussi de l'éducation des enfants. Mais j'ai éprouvé quelque insuffisance en parlant de ce sujet. Mais c'est tout à fait normal. À la vérité, je n'y entends sinon cela que la plus grande difficulté et importance de l'humaine science semble être en cet endroit où il se traite de la nourriture et institution des enfants. C'est la même chose avec l'agriculture. Les façons qui vont devant le planter sont certaines et aisées, et le planter même est très facile. Mais depuis, ce qui est planté vient à prendre vie. Vous voyez, à l'élever, il y a une grande variété de façons et difficultés. Pareillement aux hommes, il y a peu d'industrie à les planter. Je voudrais dire concevoir un enfant, c'est facile, n'est-ce pas ? Mais depuis qu'ils sont nés, on se charge d'un soin divers, plein d'embesognements et de craintes à les dresser et à les nourrir. Vous voyez, en ce bas âge si obscur, les promesses si incertaines et fausses, il est malaisé d'y établir aucun solide jugement. Les petits des ours et des chiens montrent leur inclination naturelle, mais les hommes, se jetant incontinent en des accoutumances, en des opinions, en des lois, se changent ou se déguisent facilement. Cette diversité des hommes, vous le voyez déjà en regardant un groupe d'enfants, n'est-ce pas ?
Mais qu'est-ce que c'est pour vous, cette éducation ?
C'est fort difficile de forcer les propensions naturelles, d'où il advient que par faute d'avoir bien choisi leur route, on emploie beaucoup d'années à dresser des enfants aux choses auxquelles ils ne peuvent prendre pied. Toutefois, en cette difficulté, mon opinion est de les acheminer toujours aux meilleures choses et les plus profitables, et qu'on se doit peu appliquer à ces légères divinations et pronostics que nous prenons des mouvements de leur enfance. Je voudrais par là, il est nécessaire de les bien observer et en tirer les bonnes conclusions.
Dites-moi, vous avez des conseils pour des professeurs ?
Quelquefois, ils doivent ouvrir le chemin à leurs élèves, quelquefois le laisser seul les ouvrir. Je ne veux pas que le professeur invente et parle seul, je veux qu'il écoute son disciple parler à son tour. Socrate faisait premièrement parler ses disciples, et puis il parlait à eux. Il est bon que le professeur fasse trotter son élève devant lui pour juger de son train et juger jusqu'à quel point il se doit pencher vers lui pour s'accommoder à sa force. À faute de cette proportion, nous gâtons tout. Je vous ai dit que les hommes sont toujours au-delà de ce qui est important pour eux et en un moment précis. Et si le professeur sait choisir le bon niveau, il doit s'y conduire bien mesurément. C'est une des plus ardues activités que je connaisse. Et l'effet d'une haute âme est bien forte, savoir condescendre à ses allures puériles et les guider. Je marche plus ferme et plus sûr à mon caval.
Mais ce chapitre contient vraiment de bons conseils pour le professeur.
Attendez, cher ami, il y a encore mieux. Que le professeur ne lui demande pas seulement compte des mots de sa leçon, mais du sens et de la substance, et qu'il juge du profit qu'il aura fait, non par le témoignage de sa mémoire, mais de sa vie. Que ce qu'il viendra d'apprendre, il le lui fasse mettre en 100 visages et accommoder à autant de divers sujets pour voir s'il l'a encore bien pris et bien fait sien. J'ai écrit... Alors, attendez, je recherche la phrase. Voilà. C'est... témoignage de crudité et indigestion que de regorger la viande comme on l'a avalée. L'estomac n'a pas fait son opération, s'il n'a fait changer la façon et la forme de ce qu'on lui avait donné à cuire. C'est clair et précis, n'est-ce pas? Que le professeur ne demande pas seulement les mots, mais il doit apprendre d'écrire tout un texte à son élève.
Monsieur, on voit bien comme vous vous efforcez d'apprendre la constance aux hommes.
Ah, cher ami, notre âme ne branle qu'à crédit, liée et contrainte à l'appétit des fantaisies d'autrui, serve et captivée sous l'autorité de leurs leçons. On nous attend assujettis aux cordes que nous n'avons plus de franche ailleurs. Notre vigueur et liberté est éteinte.
Vous n'y allez pas de main morte.
Jolie expression, ne pas y aller de main morte. Comment voulez-vous changer le monde autrement? C'est l'entendement qui voit et qui écoute. C'est l'entendement qui profite tout, qui dispose tout, qui agit, qui domine et qui règne. Toute autre chose sont aveugles, sourdes et sans âme. Certes, nous le rendons servile, car on nous plaque la rhétorique et de la grammaire de telle ou telle sentence de Cicéron en la mémoire, comme des oracles, où les lettres et les syllabes sont de la substance de la chose. Mais faites attention, savoir par cœur n'est pas savoir. C'est tenir ce qu'on a donné en garde à sa mémoire. Ce qu'on sait droitement ou en dispose, sans regarder au patron, sans tourner les yeux vers son livre. Fâcheuse suffisance qu'une suffisance pure livresque.
Et où est-ce que l'élève apprend le mieux, selon vous ?
À cette cause, le commerce des hommes y est merveilleusement propre, et la visite des pays étrangers, non pas pour en rapporter seulement, mais pour en rapporter principalement les humeurs de ces nations et leurs façons, et pour frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui, je voudrais qu'on commence à le promener dès sa tendre enfance, et premièrement, pour faire d'une pierre deux coups, par les nations voisines, où le langage est plus éloigné d'une autre, et auquel, si vous ne la formez pas de bonne heure, la langue ne se peut plier.
Et le rapport avec leurs parents, leur père et leur mère?
Ah, aussi bien est-ce une opinion reçue de chacun que ce n'est pas une raison de nourrir un enfant au giron de ses parents. Cet amour naturel les attendrit trop, vous voyez. Ils ne sont plus capables ni de châtier ses fautes, ni de le voir nourrir grossièrement comme il faut et hasardeusement. Ils n'aiment qu'il revienne suant et poudreux de son exercice. Boire chaud, boire froid, ni le voir sur un cheval rebours, ni contre un rude tireur le flairer au poing ou la première arquebuse. Car il n'y a remède, et qui en veut faire un homme de bien sans doute, il ne le faut épargner en cette jeunesse, et faut souvent choquer les règles de la médecine. Ce n'est pas assez de lui raidir l'âme, il lui faut aussi raidir les muscles.
Monsieur, vous bouleversez un peu la pédagogie de votre temps.
Mais non, mais pas du tout. J'observe et je tire mes propres conclusions. En cette école du commerce des hommes, j'ai souvent remarqué ce vice qu'au lieu de prendre connaissance d'autrui, nous ne travaillons qu'à la donner de nous, et sommes plus en peine d'employer notre marchandise que d'en acquérir de nouvelles. Le silence et la modestie sont qualités très commodes à la conversation. On dressera cet enfant à ne tenir compte de lui-même, qu'il ne répond pas trop à des sottises et fables qu'ils se diront en sa présence, car c'est une incivile importunité de choquer tout ce qui n'est pas de notre appétit. Mais l'enfant doit apprendre de se corriger soi-même.
Alors, votre éducation vise un but certain?
Mais oui, bien sûr, votre question me montre que vous avez bien saisi l'essence même des essais. Si son gouverneur ou son professeur tient de mon humeur, il lui formera la volonté à un être, un très loyal serviteur de son prince, un bon citoyen et très affectionné et très courageux. Mais il lui refroidira l'envie de s'y attacher autrement que par un devoir public. C'est ça que je comprends par civilité. Outre plusieurs autres inconvénients qui blessent notre liberté par ses obligations particulières, le jugement d'un homme gagé et acheté, où il est moins entier et moins libre, où il est attaché et d'imprudence et d'ingratitude. Je voudrais qu'il agisse par entendement, vous voyez.
Encore un mot sur le sujet de ses études. Votre élève doit lire.
J'ai tant attendu cette question, et la voilà. Il pratiquera par le moyen des histoires ces grandes âmes des meilleurs siècles. C'est un vain étude, disent les uns, mais par contre, c'est une étude de fruits estimables. Et le seul étude, comme dit Platon, que les lacédémoniens eussent réservé à leur part, quel profit ne fera-t-il en cette part-là à la lecture des vies de notre Plutarque? Mais que mon guide se souvienne où vise sa charge, et qu'il n'imprime pas tant à son disciple la date de la ruine de Carthage que les mœurs de Hannibal et de Scipion. Ni tant où mourut Marcellus, que pourquoi il fut indigne de son devoir, qu'il mourut là. Qu'il ne lui apprenne pas tant les histoires qu'à en juger. C'est à mon gré, entre toutes, la matière à laquelle nos esprits s'appliquent de plus diverses mesures. J'ai lu en Tite Live 100 choses que tel n'y a pas lues. Vous avez l'air étonné, cher ami.
Oh, un peu.
Ah, je m'explique. Chacun lit un livre suivant son propre horizon. Chacun y tire d'autres choses qui le font avancer. Et c'est de cela qu'il s'agit. Laissez votre élève travailler librement. Il lit un texte. Donnez-lui 5 minutes pour en méditer. Ne lui donnez pas tout de suite 36 questions. Une fois la lecture terminée, il posera de lui-même les questions. Méfiez-vous, ce ne seront jamais des questions faciles. Il va vous planter rapidement. Vous savez ce que font les professeurs pour éviter cela?
Ah, poser des questions?
Je vois, vous avez compris tout le système. Encore une dernière remarque. On nous apprend à vivre quand la vie est passée. 100 élèves ont pris la vérole avant que d'être arrivés à leur leçon d'Aristote de la tempérance. Cicéro disait que quand il vivrait la vie de 2 hommes, il ne prendrait pas le loisir d'étudier les poètes lyriques. Notre enfant est bien plus pressé. Il ne doit au pédagogisme que les premiers 15 ou 16 ans de sa vie. Le demeurant est dû à l'action. Employons un temps si court aux instructions nécessaires. Ce sont abus. ôtez toutes ces subtilités épineuses de la dialectique, de quoi notre vie ne se peut amender, je veux dire améliorer, prenez les simples discours de la philosophie, sachez les choisir et traiter à point. Ils sont plus aisés à concevoir qu'un conte de Boccace. Un enfant en est capable au partir de la nourrice, beaucoup mieux que d'apprendre à lire ou écrire. La philosophie a des discours pour la naissance des hommes. À la vérité, nous voyons encore qu'il n'est rien si gentil que les petits-enfants en France, mais ordinairement, ils trompent l'espérance qu'on a conçue, et, homme fait, on n'y voit aucune excellence. Et je voudrais ajouter une phrase toute simple. Le vrai miroir de nos discours est le cours de nos vies. C'est le meilleur résumé de mes essais, et pour revenir à mon propos, il n'y a tel que d'allécher l'appétit et l'affection, autrement on ne fait que des ânes chargés de livres. On leur donne à coups de fouet, en garde leur pochette pleine de science, laquelle, pour bien faire, il ne faut pas seulement loger chez soi, il la faut épouser. Regardez, le soleil est déjà assez bas.
Vous avez raison, monsieur. Je vous remercie infiniment de vos réponses.
Je vois que vous avez les essais sous le bras. Donnez-moi le livre, je voudrais le vous dédicacer. De la part de Montaigne, ce 21 avril de juin 1580.